Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala ila yawmiddin, wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi shahli sadri, wa yassir li amri, wa hlul aqdata min lisani, yafqahu qawli. Chers frères et sœurs, toutes les louanges et les remerciements reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous permet de vivre ces dernières nuits impaires et de façon plus globale ces dernières nuits de la dernière décade du mois de Ramadan. Pour la réunion ce soir, nous apprêtons à vivre la fameuse 27e nuit du Ramadan qui pour certains est souvent synonyme de Laylatul Qadr, mais on a eu l'occasion de, on va dire, de dégrossir un peu ce masque-là et de rappeler la vie le plus retenu, c'est que Laylatul Qadr peut différer d'une année à l'autre. Mais la vie globale des savants, c'est également qu'il y a une Laylatul Qadr pour la Ummah chaque année, une Laylatul Qadr. C'est pour ça que nous n'arrêtons pas d'insister sur les nuits paires également. Sur les nuits paires. Par exemple, hier soir, c'était le 26e. Il ne fallait surtout pas se dire que 26e, donc, ce n'est pas une nuit paire. Ce n'est pas une nuit impaire, donc on peut se reposer un peu. Alors qu'à Makkah, Madina et en métropole et dans la moitié du monde, si ce n'est pas plus, c'était une nuit impaire. Donc, il faut vraiment s'accrocher à chacune de ces nuits de ce mois de Ramadan et intégrer le fait, se rappeler, prendre conscience que c'est un cadeau qu'Allah nous accorde. C'est un cadeau qu'Allah accorde à cette communauté et qu'il n'a accordé à aucun genre du livre, aucune religion des livres, des kutub munazzala avant nous. Et vivre ce mois de Ramadan, c'est un bienfait. On ne va pas revenir sur les grands hadiths de base d'introduction. L'heure n'est plus de rappeler l'importance du mois béni, sauf que l'histoire de ces trois jeunes qui se dépassaient mutuellement de l'accomplissement des bonnes œuvres et qu'une personne, un jeune parmi ces trois, est décédé de le chemin d'Allah et que ses deux amis étaient décédés beaucoup plus tard, des années plus tard, et on vit en rêve que ces deux amis avaient eu un rang supérieur à leurs camarades qui pourtant était mort de le chemin d'Allah. L'explication de le prophète alayhi salat wa salam, c'est que les deux autres personnes qui avaient vécu plus longtemps ont eu l'occasion d'accomplir beaucoup plus de bonnes actions vu le temps qu'ils ont passé de ce monde en plus, et entre autres ce qui a été souligné dans le hadith qui est rapporté par Imam Ahmad, c'est qu'ils ont eu plus de mois de Ramadan que celui qui est décédé des années auparavant. Ça nous permet de réaliser que vivre ne serait-ce qu'une nuit du Ramadan, chers frères et sœurs, c'est vraiment un cadeau, c'est un trésor, et ce qui nous permet de valider, de faire valider notre passage de ce dunya, d'être accepté par Allah, et certainement avoir un haut rang auprès de notre Seigneur le jour de Qiyam. Ainsi donc, depuis maintenant, mashallah, 6 ou 7 nuits, nous faisons tous des efforts, chacun à notre niveau, selon nos capacités, pour passer ces nuits en ibad. J'ai eu des échanges avec des jeunes qui sont en itikaf, entre autres concernant la façon dont ils passent leur nuit. C'est moi qui ai posé la question pour voir un petit peu, voilà, très honnêtement, c'est pour les prendre en modèle, parce que mashallah, c'est une action que j'admire, hein, ces jeunes, enfin jeunes et moins jeunes bien sûr, hein, je veux dire, effectivement, il y a un groupe de jeunes que voilà, j'ai un regard mashallah sur eux, admiratif on va dire sur eux, et ils consacrent 10 jours, c'est 10 jours à l'itikaf qui est connu, et à mon humble avis c'est un sacrifice quand même, mashallah, c'est admirable. Et donc ils me disaient que voilà, ils font de leur mieux après la salat, après le repas bien sûr, pour la tarawih ils prennent leur dîner, c'est tout à fait normal, et ils démarrent avec lecture du Coran, des kurullah, ils essaient de faire de leur mieux et de tenir la nuit, ce que je trouve extraordinaire, exceptionnel. Et je demande à Allah Rabbul Izzah d'inscrire ces jeunes parmi ceux qui seront sous l'ombre de son trône le jour de Qiyamah, un jeune qui a passé sa jeunesse de l'obéissance d'Allah, et qu'Allah nous l'accorde à tous. J'ai ensuite développé donc les échanges et j'ai dit, mais comment ça se passe au moment où vous commencez le tahajjud, on va dire vers 2h ou 3h du matin éventuellement. Et là on m'a dit que c'est compliqué parce que là on décroche, parce qu'on a sommeil, on perd un peu, voilà quoi, notion de temps, concentration et tout, ça n'y est pas. C'est là que j'ai donné ce conseil qui est peut-être pas le meilleur, hein, ce qui est peut-être pas le meilleur, mais qui est peut-être adapté à des personnes comme vous et moi qui malheureusement n'ont pas cette habitude de passer des nuits en ibad. Dit peut-être que profiter du premier tiers de la nuit où théoriquement le corps rattrape un peu, a besoin de ce sommeil. Il paraît que le premier tiers de la nuit, c'est le sommeil qui est réparateur, les cellules et ainsi de suite, et ce qui permet l'organisme de se remettre un petit peu en forme. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on accomplit un ibadah, il faut le faire avec concentration et dévotion. Et il n'y a pas de concentration et dévotion si on ne le fait pas en pleine conscience. C'est-à-dire qu'il faut vraiment présence de cœur, être concentré et être là. Maintenant, si on somnole et que on ne, je donne un exemple, vous êtes tellement fatigué parce que voilà, depuis mashallah 23 heures, vous êtes sur votre tapis de prière et qu'à 2h30 du matin, ben, vous vous endormez complètement de la prosternation. Et que, ou alors vous êtes dans la première rak'at, vous ne savez plus qu'est-ce que vous lisez, vous recommencez la salat sans arrêt. On va dire que ce sont des efforts énormes. Allah Rabbul Izzah est témoin de l'engagement physique. Je parle déjà d'un engagement physique, de la bonne volonté, de l'intention qui est sincère et pure, qui est à la recherche du contentement d'Allah. Mais il faut qu'en même temps, on soit conscient de ce qu'on fait comme bonne action. Il y a un hadith qui est, si je ne me trompe pas, c'était Zainab. J'ai un doute, mais il me semble que c'était Zainab radiallahu anha qui avait accroché une corde dans la masjid Nabawi. Le prophète avait vu une corde, donc suspendue. Je dis corde, ça peut être un morceau de tissu ou... Et le prophète a demandé qu'est-ce que c'est. Zainab a expliqué que voilà, quand elle fait la prière de la nuit, des fois elle est fatiguée, elle somnole et elle se tient à cette corde ou à ce tissu pour ne pas tomber de fatigue. Et là, le prophète lui a dit que non, que c'est pas comme le sens du hadith, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut qu'elle puisse se reposer pour faire la salat avec concentration et présence de cas. Ça, c'est une règle à retenir. Maintenant, il y a des gens qui sont capables de rester dans un état de concentration optimale de 23h à 4h30. Mais si ce n'est pas notre cas, ne pas hésiter à dormir un peu le soir jusqu'à minuit 30, 1h du matin. L'objectif serait d'être performant dans le temps qu'on va passer en ibadah et surtout dans les doigts que nous allons demander. Parce que quand nous passons la nuit en ibadah, c'est pour faire la prière, lire le dhikr Allah, Allahumma inni ala dhikrika, pardon, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, la demande de pardon, ça doit se faire avec présence de cœur, avec les conditions qu'on a citées dans le précédent programme en ligne, mais également la nuit du destin, taqdir, et qui dit taqdir dit ta vie, et qui dit ta vie, ce sont des situations qui vont se présenter à toi, ton présent, ton futur. Donc demander à Allah des choses qui te concernent directement, qui concerne ton épouse, tes enfants, tes parents, ta famille, tes proches, la umma. Et quand on formule une demande, il faut le faire de façon intelligente, cohérente. On doit savoir ce qu'on demande pour qu'on s'implique, pour qu'on demande avec dévotion et vraiment avec cette prise de conscience qu'Allah nous entend, et on le fait comme une personne qui est perdue s'il n'y a pas l'aide d'Allah. Mais il faut qu'on soit réveillé et éveillé également. Donc peut-être un petit quota de sommeil. Ce que nous voulions dire, c'est que quand on fait doua, il faut être conscient de ce qu'on demande. Alors bien sûr, il y a les doua qu'on formule en français ou dans la langue que nous voulons, ce qui est extrêmement important, être capable de dialoguer avec Allah Azza wa Jalla. De nos jours, il y a également des fichiers PDF qui circulent, des douas qui sont accentués pour ceux qui ne sont pas forcément arabophones, et des douas, comme on dit ici, masnoun, donc issus de la sunna, et des petits livrets qu'on peut lire pendant une heure. Donc ce qui est très bien, ça nous permet d'avoir des douas qui ont été formulés et enseignés par un Nabi alayhi salat wa salam. Cependant, on va dire que ce genre d'action, lire un doua, un livret de doua, ça peut nous prendre une heure de notre nuit. C'est très cohérent, c'est une bonne distribution de notre nuit de ibadah. Cependant, il faut une place encore plus importante aux douas que nous formulons en français. Être capable de se livrer, de se confier à Allah, de lui raconter, et je pèse mes mots, de lui raconter nos problèmes, nos difficultés, nos peurs, nos craintes, alors qu'Allah sait déjà ce que nous vivons, parce que c'est lui qui prédestine tout. Mais être capable de le dire à notre Seigneur, c'est vraiment quelque chose qui nous soulage moralement, psychologiquement, et qui nous renforce spirituellement, parce que ça nous fait vraiment prendre conscience qu'Allah est Sami'un Basir. Allah est celui qui entend tout et qui voit tout. Et même si tu fais ces doigts dans une pièce fermé où tu es seul de l'obscurité de la nuit, les lumières éteintes, et que tes doigts, bien sûr, le doigt, il ne faut jamais faire à voix haute, mais à une voix, enfin, je ne rentre pas dans trop de détails, une voix audible de nous-mêmes, c'est entre le chuchotement et la voix parlée, on va dire, une voix audible, et on est conscient qu'Allah nous entend, même si quelqu'un dans une pièce à côté ne nous entend pas, d'accord? Parce que c'est une voix trop basse, mais notre Seigneur nous entend. Et le fait de se plaindre, de se confier à Allah, c'est quelque chose qui nous renforce. Et ça nous permet de donner encore plus de conviction ensuite de la demande qui va suivre. On peut dire à notre Seigneur que je souffre depuis des années, j'ai tel problème, j'ai telle épreuve, ya Allah, c'est toi-même qui as envoyé l'épreuve. Mais ensuite, arriver à la demande positive, la demande constructive, oh Allah, tout est dans tes mains, uniquement de toi que j'espère Shifa, la santé, le rétablissement ou la solution à ce problème. Ça peut être un problème de couple, un problème relationnel avec les parents, un problème de travail, peu importe. Donc cet échange, on va dire cette conversation avec notre Seigneur, c'est essentiel, c'est essentiel. Ça doit faire partie de nos du'as dans nos nuits de dernier des cas du mois de Ramadan et tout le temps, on va dire de façon globale. Et puis il y a les doigts que le prophète alayhi salatu wa salam faisait dans la salah. Des doigts auxquels nous ne sommes pas forcément habitués, c'est des adhkar. On va dire ce sont des adhkar, mais qui sont des doigts et qu'il est nécessaire dans notre tahajjud de le mettre en application. Parce que déjà ça va être une sunna, ihya ou sunna, faire revivre une sunna, ce qui est très, une belle action. Et ça te permettra de distinguer tes tahajjud et d'y apporter une, on va dire quelque chose de très profond, de très spirituel. Parmi les doigts que notre prophète alayhi salatu wassalam faisait dans la salat, et là il y a nécessité de les connaître ces doigts, donc il y a un effort à faire, il faut les mémoriser. C'est peut-être pas des doigts que nous avons l'habitude de lire, donc prendre le temps de les répéter 10 fois, 15 fois, ou beaucoup plus si on a un peu de mal à retenir, de telle sorte que nous les connaissons par cœur. Comme on a appris les sourates du Coran, quand on était petit, on a appris le doigts, on apprend ce doua et on demande à Allah de nous permettre de nous rappeler de ces doua et d'être sincères et avec ça connaître le sens de ces invocations afin que lorsque nous allons les prononcer, les lire dans nos salats, on les fait avec présence de cœur. On va se focaliser sur deux doua, soit une seule, soit deux si on a le temps. Parmi les doua que notre prophète alayhi salat wa salam avait l'habitude de demander en sujoud, en prosternation. Et nous savons tous que la position hadith qu'il stipule, où le serviteur est le plus proche d'Allah, c'est quand on est en prosternation. Quand on est en sijda, on est au plus proche du sol. Et en même temps, j'allais presque dire paradoxalement plus proche d'Allah. Allah qui est le plus haut. Sabbih isma rabbika al-a'la. Al-a'la, celui qui est élevé. Allahu rabbuna al-mustawa al-arsh. Et nous, genoux sur le sol, front posé sur le sol, on est au plus bas. En termes de gravité, on est au plus bas. Mais c'est là que réellement on est le plus proche d'Allah Azza wa Jal parce que c'est la position vraiment de istislamu lillah, de soumission totale à Allah Azza wa Jal. Donc, c'est vraiment la position par excellence pour demander des invocations, pour demander des doigts. Et si on a les formules utilisées par le Prophète sallam, c'est Subhanallah, nuruna ala nur, khayr wa ni'ma. C'est la meilleure des. C'est vraiment la meilleure des doigts. Quand le prophète alayhi salatu wassalam demandait quelque chose à Allah, il formulait une demande, c'était toujours les doigts les plus utiles, les plus précis et les plus profitables. Et donc nous devons reprendre les mêmes formules que le prophète alayhi salatu wassalam. Parmi donc les doigts que le prophète faisait en position de sujoud, de prosternation, Allahumma ghfir li dhanbi kullah. دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسر حديث أبو هريرة رضي الله عنه qui relate que le prophète عليه الصلاة والسلام faisait cette invocation prosternation de l'Ifsala Nawafi. Le hadith rapporté par Muslim. Il me semble que l'année dernière ou il y a deux ans on avait déjà évoqué ce doua dans un programme à la masjid. Ce rappel est nécessaire, donc la première étape c'est de mémoriser le doua. C'est un effort à faire, c'est un effort en plus à faire pour parfaire et optimiser le temps que nous allons passer en ibad. Allahumma ghfir li On avait déjà expliqué le Allahumma, ça veut dire que, oh Allah, on invoque Allah, on supplie Allah. Et quand tu dis Allahumma, les portes sont ouvertes parce que tu es en position de celui qui demande et quémande à son Seigneur. Et quand on demande à Allah, Allah est extrêmement attentif. Et Allah a dit lui-même, fa'inni qarib, qu'il est proche. Proche, il écoute, il entend, il sait, il comprend et il est attentif comme un yaliq ou bi azza wa jal, et Allah exauce et valide nos demandes. Donc quand je dis Allahumma, c'est avec cœur. Qu'est-ce que le prophète me demandait de ses prosternations à travers cette formule? Allahumma gfirli, le dua suprême. Oh Allah, accorde-moi ton pardon. Et là le prophète développe pour quel genre de péché, et tout en sachant que le prophète était totalement innocent, exemple de tout péché, Nabiullah alayhi salat wa salam, celui qui n'accomplissait, qui était l'homme parfait, qui n'accomplissait aucun péché. Mais il le demandait parce qu'il était un serviteur reconnaissant, Abdan Shakura, et pour l'enseigner à sa umma, pour nous enseigner à nous. Allahumma ghfir li dhanbi kulla. Il demandait à Allah pardon pour tous ses péchés. Kulla, l'intégralité des péchés. Et quand tu le demandes, akhi fillah, ukhti fillah, pense à ta vie de péché, ta vie de guna, ta vie de ma'asiya, et que tu es en train de demander à Allah pardon pour tout ça. Et ensuite, pour ça me donne des tafarsils, des détails. Diqqahu wa jillahu. Le prophète mentionne les petits péchés. Et on avait vu également dans un précédent programme que les petits péchés peuvent avoir de lourdes conséquences parce que souvent on n'en est même pas conscient. Donc, ce doua te permet d'obtenir le pardon pour les petits péchés cumulés. Diqqahu wa jillahu. Jillahu, là il s'agit des grands péchés, des péchés graves, des kaba'irudhunub. Et les péchés graves peuvent trouver le pardon d'Allah Azza wa Jal dans ces nuits, à condition bien sûr de réunir les conditions qu'on a eu l'occasion de mentionner la dernière fois, regretter ces péchés au plus profond de notre cœur, demander pardon comme on le fait, comme on va le faire, et faire l'intention ferme de ne plus jamais, mais jamais, jamais, jamais recommencer ce péché, et le promettre à Allah, et ensuite prendre des précautions pour ne plus répéter les mêmes erreurs. Donc le prophète me demandait pardon, je reprends, pour tous ces péchés, les petits péchés, mais également les péchés graves. Wa jillahu, wa awwalahu wa akhirahu, ceux commis ouvertement, non pardon, des premiers au dernier, les péchés qu'on a pu accomplir il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou plus, et les derniers qu'on a pu accomplir là, aujourd'hui, ce matin, hier, ou dans le mois de Sha'ban, avant le mois de Ramadan. Donc c'est vraiment une demande de péché, une demande de pardon qui est globale, donc qui englobe l'intégralité de notre vie où on a pu commettre des erreurs. Donc c'est vraiment un doua qui est complet. Awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu, ceux commis ouvertement et ceux commis secrètement. Ça peut être les péchés qu'on a accomplis ouvertement devant les gens. Vous savez que les péchés les plus détestés par Allah Azza wa Jal, ce sont les péchés qui sont justement accompli ouvertement. Parce que celui qui fait un péché en public, ça veut dire qu'il ne ressent pas la honte de désobéir à Allah Azza wa Jal. D'accord? Donc, c'est un pardon pour ce genre de péché, mais également, wa sirrahu, et Allah seul sait comment on a besoin de ce genre de pardon pour les péchés accomplis secrètement. C'est les péchés que, voilà, qu'une personne va faire à l'abri des regards, et on en a grandement besoin, il me semble, hein, de demander pardon pour l'intégralité, tous les types de péchés différents, et malheureusement à notre époque tous ces types de péchés font partie de notre vie. Wallahu musta'an. Donc ce doua, on doit essayer de le mémoriser et de le réciter autant de fois possible en position de prosternation dans la salat, et le faire avec présence de cœur et conviction qu'Allah nous entend, nous écoute et attentif à notre demande de pardon, et vraiment regretter les péchés qu'on a accomplis, et avoir cette conviction qu'Allah est Ghafur Rahim, est capable de nous accorder son pardon. Ça c'était donc le premier doua. Le deuxième doua, le prophète alayhi salat, ça c'est pas le deuxième doua, mais il y en a énormément des doua. Deuxième doua que nous allons voir aujourd'hui, inshallah, c'est doua entre les prosternations. Et ça fait partie des sunan des sunnas qui ont été un petit peu abandonnées. En général, quand on prie la prosternation, Subhan Rabbi al-A'la, bien sûr, on s'assoit, Allahu Akbar, on retourne en prosternation, Allahu Akbar, mais très souvent, il n'y a rien entre les deux. Alors que le Prophète sallam prenait le temps de lire certains adhkar dans la position assise. Le premier dhikr, le plus simple, ça qu'on peut démarrer dès maintenant, c'est de dire trois fois Rabbi ghfirli. Donc, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Ça prend quelques secondes. Et ensuite, donc, ça c'est en position assise, et retourner dans la deuxième, et aller ensuite de la deuxième prosternation. Mais si tu demandes Rabbi ghfirli, fais-le. La tête baissée, avec humilité et dévotion. Vraiment, c'est, j'allais prendre une image, mais qui est complètement décalée, hein, comme ce petit enfant qui a fait une bêtise et qui se présente devant son professeur à l'école ou ses parents et qui, la tête baissée, demande pardon, je suis désolé, et qui reconnaît qu'il a fait une bêtise. D'accord ? On se met un peu dans cet état, la tête baissée, dans la position assise entre les deux prosternations, et demander vraiment avec cœur, avec sincérité, Rabbi ghfirli. Et réaliser que quand je dis Rabbi ghfirli, je demande à Allah, oh Allah, pardonne-moi. C'est pas Rabbana ghfir lana. Non, c'est pas une doua globale. C'est vraiment, tu demandes pardon pour toi, pour ta personne, pour tes erreurs à toi. Et donc le répéter trois fois. Voilà donc le premier palier, le plus simple, Rabbi ghfirli. Et si on peut mémoriser une deuxième invocation, alors ce serait, mashallah, exceptionnel. Allahumma ghfirli. Le prophète le disait aussi, Allahumma ghfirli. Warhamni. Je traduis, oh Allah, pardonne-moi. Ça, on a compris. Warhamni, sois clément envers moi. On demande à Allah sa rahma. Et c'est la qualité d'Allah que nous citons le plus. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mais également d'Al-Fatiha. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. C'est vraiment le nom d'Allah que le croyant va réciter le plus souvent dans sa vie pour qu'on réalise qu'Allah est clément et miséricordieux. Et là, dans cette salah, seul, Qiyamul Layl, de le dernier tiers de la nuit, tu es en train de demander au Rahman, Rahim, Allah qui est clément et miséricordieux, de t'accorder sa clémence et sa miséricorde. C'est vraiment ce qu'il accorde durant cette nuit, mais il faut le demander. Warhamni, accorde-moi ta miséricorde. Fais-moi bénéficier de ta clémence et de ta miséricorde. Et quand on le demande, on se rappelle que le prophète alayhi salat wa salam nous a dit que le jour de Qiyama, personne n'accédera au Jannah uniquement par ses bonnes actions. C'est-à-dire que ne sois pas fier de tes bonnes œuvres. Ne sois pas fier du nombre de hajj que tu accomplis, du nombre de umrah, du nombre de khatm al-Qur'an que tu fais durant chaque mois de Ramadan. Non. Réalise que ces actions sont importantes de la pesée des amal le jour de Qiyama, mais prends conscience également que tu n'accéderas au paradis que par la clémence d'Allah. C'est ce que le prophète nous a enseigné. Et c'est le moment de demander à Allah, warhamni, accorde-moi ta clémence et ta miséricorde. Wahdini. Wahdini, on reconnaît le terme hidayah. Et al-hidayah, c'est la plus grande demande. Tout à l'heure, on a, dans warhamni, c'est le nom d'Allah qu'on répète le plus souvent, qu'on extrait d'al-fatiha. Et là, on extrait également d'al-fatiha, et ihdina as-sirata al-mustaqim. Les savants disent, ça c'est le doua que tu vas répéter le plus souvent dans ta vie. Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Et on a eu l'occasion d'expliquer ihdina as-sirata al-mustaqim à travers différents tafsirs. C'est de demander à Allah de nous garder al-thabat ala as-sirata al-mustaqim, l'istiqama hatta al-maut, de rester dans le droit chemin et de nous accorder encore plus de guider jusqu'à la mort, jusqu'à ce que l'ange de la mort reprenne notre âme, que nous restions dans le sirat al-mustaqim, de le droit chemin. Et en tafsir al-fatiha, il est l'occasion de dire que après avoir cité les noms d'Allah, proclamer que Allah est unique, qu'il est clément, miséricordieux, maître du jour de la rétribution, c'est là que nous demandons a'azam talab wa a'azam du'a, la demande la plus importante pour que ta vie soit validée. Qu'Allah te guide le droit chemin, ça te permet d'être dans la droiture de ce dunya et d'être accepté par ton Seigneur au moment de mourir, d'être accepté de bénéficier de sa clémence dans la tombe et surtout le jour de Qiyama, et de te faire entrer dans le Jannah. Ça, il n'y a pas de du'a plus important que Ihdina as-sirat al-mustaqim. C'est le du'a majeur, le du'a qui te permet de valider ton passage dans ce dunya, et c'est ce que tu demandes dans cette position assise. C'est ce que le prophète me demandait et nous enseignait de demander à Allah cela dans le Qiyamul Layl, entre autres. Donc Allahumma ghfirli, le pardon, warhamni, la clémence et la miséricorde, Wahdini, l'a guidé. Wajburni. Alors, Wajburni, ça a été traduit par préserve-moi. Il y a de ça. Mais si on creuse un peu plus le sens de Wajburni, on voit l'explication des Muhaddithin. Dit que quand tu demandes Allah Wajburni, Allah Rabbul Izzah va transformer ta faiblesse, yatahawwalu ila quwwa, en force. Wa huznuhu yatahawwalu ila, et ta tristesse, Allah va l'enlever et va le remplacer par une force mentale, par de l'énergie, par de l'optimisme. Ça, c'est les termes que je rajoute un petit peu. Allah va remplacer la tristesse qui habite ton cœur par une certaine joie, une quiétude, une sakina. Donc, Wajburni, c'est un doigt important où notre Seigneur va combler nos manquements et nos faiblesses et nous accorder ce qui nous manque. Wajburni. Wa infini al-afu. On a eu l'occasion d'expliquer dans Allahumma innaka afu, tuhibbu al-afu fa'fu anni. C'est vraiment le pardon intégral et qu'il ne reste plus de traces de mes erreurs et de mes péchés. Warzuqni ar-rizq. Qu'Allah t'accorde ta subsistance de ce dunya, mais de façon plus globale, les savants disent qu'on parle de risque également spirituel, qu'Allah te donne la guidée pour accomplir les bonnes œuvres. Ça fait partie également du risque, si on voit l'opinion des savants, des muhaddithines à ce propos. Et enfin, warzuqni, on avait warzuqni, et warfa'ni, où Allah augmente, ismoi à un niveau élevé, augmente mon daraja auprès de lui, et mon daraja, mon degré, je voulais dire, dans le Jannah. Donc deux doigts essentiels, importants, et nous allons donc avec le duo mettre les stickers de ces doigts pour qu'on ait un visuel avec la traduction et la prononciation, pour que inshallah dès ce soir, si ce n'était pas déjà fait, on prend la bonne habitude de lire ces doigts dans nos prières, qu'Allah Azza wa Jal accepte nos efforts durant cette dernière décade, valide notre mois de Ramadan et nous accorde ce qu'il donne à ses pieux serviteurs. Ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.